Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Sanders, je suis ici avec mon mari Paul. Peut-être que certains le connaissent plus que moi pour avoir été le directeur de l'Institut biblique de Nogent pendant de nombreuses années avant notre départ au Liban où nous avons résidé pendant 14 ans. Et puis certains aussi peut-être connaissent le nom de famille par notre fils Mathieu qui est le pasteur de l'église baptiste de Paris Centre rue de Sèvres. Voilà, donc moi, je suis le côté féminin de cette famille. Et heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va d'abord voir ensemble une petite méditation biblique, assez brièvement. Et puis ensuite, j'aurai le privilège de vous parler de l'œuvre Tahaddé que j'ai cofondée au Liban et qui vit bien sûr dans une situation compliquée en ce moment, étant donné l'état du pays. Alors, je vous propose de revoir d'abord un passage bien connu dans l'évangile de Luc et de nous laisser étonner une fois de plus par Jésus. Selon le contexte, donc c'est Luc 10, 23 à 37, pour ceux qui voudraient suivre dans leur Bible. Selon le contexte, Jésus est en train de parler à ses disciples, en particulier, un peu à part, sur le privilège qui leur est donné d'être ses disciples et de recevoir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il leur dit, le texte nous dit, Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez. Des rois et des prophètes auraient bien voulu voir et entendre ce que vous voyez et entendez. » C'est-à-dire voir et entendre le Messie attendu en personne. Donc c'est un peu un aparté qu'il prend avec quelques disciples et il leur dit, voilà, est-ce que vous vous rendez compte du privilège que vous avez de pouvoir être en personne avec celui que des rois et des prophètes auraient bien voulu voir et entendre. C'était un de ces moments privilégiés pour les disciples qui avaient tout quitté pour suivre le Maître. Et dans ce chapitre, on voit dans les versets précédents qu'ils ont été envoyés. Ils ont parlé, ils sont revenus, ils étaient envoyés, vous vous souvenez, sans bourse, simplement avec un bâton pour marcher. Ils reviennent et ils ont ce privilège d'être avec Jésus pendant quelque temps. Et pour une fois, il n'y a pas une foule autour et il leur parle à eux seuls. Ils passent un temps privé avec eux, ils les encouragent en leur disant à quel point ils peuvent se considérer heureux de vivre ces moments. Et puis arrive à ce moment du récit, ce qu'on appelle en littérature un événement perturbateur. Un enseignant de la loi de Moïse interrompt cet aparté amical avec une question qui semble à première vue légitime, mais que Luc nous présente comme une question piège. Selon Luc, chapitre 10, verset 25, voilà ce qui est écrit, « Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Cet homme interrompt donc une conversation privée, mais semble à l'aise dans ce rôle de poseur de questions. Après tout, c'est un enseignant, les enseignants sont à l'aise pour poser des questions, et parfois des questions pièges. Sa question à Jésus, elle est directe, elle est fondamentale, elle touche le sujet du salut. Que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle ? Direct. Jésus ne semble pas s'irriter de l'interruption. Il répond à cet enseignant avec une question qui le renvoie sur son propre terrain, la connaissance des Écritures. On nous a dit que c'était un enseignant, un maître de la loi. Il lui dit, qu'est-il écrit dans notre loi ? Pas dans ta loi, dans notre loi. Qu'est-il écrit dans notre loi ? Qu'est-ce que tu y lis ? Lui demande-t-il. La réponse à la question se trouve en effet dans le livre du Lévitique et l'enseignant, qui connaît bien son sujet, le récite facilement, par cœur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui a ainsi montré qu'il a déjà la réponse à sa propre question. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. tu as répondu à ta question. Notons bien qu'aimer Dieu, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, cela implique un salut par la foi, puisque ce Dieu que nous devons aimer ainsi, nous ne le voyons pas. Aimer son prochain comme soi-même, cela implique notre engagement en action, puisque notre prochain fait concrètement partie de notre vie quotidienne. On a donc, dans cette bonne réponse de l'enseignant juif, à la fois la complexité et la simplicité du salut. Foi en un Dieu que nous ne voyons pas, amour de l'autre dans la vie quotidienne. L'enseignant semble penser qu'il est plutôt bien au point sur la première partie, aimer Dieu, puisqu'il ne pose pas de questions. Il pose des questions sur la deuxième, mais qui est mon prochain ? Le texte nous dit qu'en posant cette question, il cherche à se donner raison. En fait, ça me paraît être une bonne question, même s'il la pose peut-être avec une mauvaise motivation. En tout cas, Jésus en profite pour donner à ce moment-là, par une parabole, un enseignement fondamental pour cet homme, mais aussi pour nous tous. C'est la parabole bien connue du bon samaritain. Dans l'histoire qui suit, l'homme victime d'une agression sur la route est un juif, donc, a priori, pour son interlocuteur, quelqu'un de sa culture, quelqu'un à qui il peut facilement s'identifier, quelqu'un de bien. Celui qui va l'aider, par contre, il n'est pas juif, mais un peu comme chantait Moustaki, une gueule de métèque, un juif errant, un patre-greffe, en fait pas juif. Il n'est ni juif ni grec, mais pire à l'époque, un samaritain, peuple de race mélangée, méprisé, mal vu de la société, peut-être un peu le Rome de notre époque. Jésus renverse alors tous les rôles et toutes les idées préconçues. Le prochain, dans l'idée de l'enseignant juif, et probablement, je crois, aussi dans la nôtre, c'est celui que l'on doit aider. Le pauvre que l'on rencontre, le pauvre de notre quartier peut-être, ou le neveu en dérive. C'est déjà assez difficile. Mais dans l'histoire de Jésus, le prochain n'est pas celui qui est aidé, mais celui qui aide. L'idée est donc, est-ce que j'accepte l'aide de quelqu'un que je ne respecte pas en raison de ses origines ethniques, sociales ou religieuses ? Qui est le prochain de qui ? L'application à notre époque est évidente. Le samaritain, pour nous, pourrait être arabe, rome, africain, il pourrait être bouddhiste ou musulman, et s'arrêter pour nous porter secours alors que nous gisons dans un fossé après avoir été renversé par un chauffard. C'est cela que nous dit cette parabole. Voilà, dit Jésus, notre prochain. Et ce prochain-là, je dois l'aimer pas seulement un petit peu, mais comme moi-même. Je ne regarde donc plus à l'étiquette ethnique ou religieuse de la personne, mais comme Dieu lui-même directement au cœur. Et si j'aime cette personne comme moi-même, ainsi que Dieu, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, par la foi, alors j'ai accès au salut. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. Nos propres forces sont insuffisantes pour deux raisons. Notre foi en Dieu est trop petite et notre amour du prochain est trop imparfait. Le sacrifice de Jésus sur la croix intervient alors, comblant nos insuffisances, nous apportant cette perfection requise pour une pleine communion avec le Père. Cette histoire du bon samaritain justifie couramment le travail parmi des populations considérées comme hostiles à l'Évangile. En effet, dans l'histoire, le samaritain fait le bien sans en profiter pour tenter de convertir le blessé à sa cause ou à sa propre foi. En fait, nous ne savons rien des croyances de ce samaritain. Il ne s'approprie pas non plus les résultats de sa bonne action puisqu'il part avant même d'en voir les résultats, ayant donné à d'autres les moyens de continuer ce qu'il avait si bien commencé. C'est une histoire qui m'est chère dans le contexte de notre ministère au Liban, parmi une population socialement méprisée réfugiés syriens, palestiniens, déplacés libanais du sud-Liban, gitans. Jésus nous demande d'être le prochain de ces personnes, mais aussi d'accepter qu'eux soient notre prochain. Un petit Bassam, 13 ans, amputé d'une jambe après les bombardements d'Alep, orphelin, peut-il être celui qui m'encourage ? Certainement. Oublions, je suis émue parce que j'ai vécu avec ce petit Bassam quelques moments. Oublions nos a priori de supériorité et sachons recevoir de ses prochains, étant toujours prêts, comme nous le demande l'apôtre Pierre, à répondre avec douceur et respect de l'espérance en Jésus qui est en nous. Acceptons que Jésus bouscule notre pensée et notre cœur.